Bonjour, voilà, je téléphone, c'est un coup de gueule que je passe. J'en ai marre, quoi. La banque. Vous vous rendez compte, ils m'ont interdit un prélèvement parce que j'avais 47,09 € au lieu de 48,70 € pour mon prélèvement. Et en plus de l'avoir refusé, ils m'ont pris 21 € de frais, quoi. J'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment marre de ces banques et de ce gouvernement de merde, quoi. Ils nous enfoncent de plus en plus, quoi. Voilà, salut, désolé, mais vraiment, j'ai la rogne, quoi.
Bonjour, c'est déjà le mois d'octobre dans le bocage nord de Sèvres. Alors on se retrouve vendredi 5 octobre à 19h chez Léa, comme d'hab, au petit clasé à 19h. Les anciens, les nouveaux et ceux qui veulent nous rejoindre, salut.
Vas-y François, je te rejoins. Salut Daniel, c'est Nicolas. Je t'appelle pour te dire que je suis vraiment pas très content des journalistes. Comme d'habitude, ils font pas leur travail. Ils répètent les phrases hors de leur contexte et ils en oublient la moitié. J'ai jamais dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Déjà, je m'adressais à mes copains. Et en plus, j'ai dit qu'il fallait faire travailler plus pour gagner plus. J'espère que le message sera bien compris. J'arrive, François.
Amis des betteraves du Gâtinais, bonjour, c'est Pierrot du repère de Toussons, petit village de 384 habitants en Seine-et-Marne. Nous vous proposons ce vendredi 5 octobre à 20h30 une rencontre-débat avec Jean-Pierre Filiou, diplomate et prof associé à Sciences Po, auteur du livre « Les frontières du djihad », un ouvrage qui permet de comprendre les enjeux de cette guerre, des djihads et la place d'Al-Qaïda. Cette rencontre-débat est organisée avec la librairie de l'Halle de Milly-la-Forêt. Donc, ce vendredi, ça se déroulera au repère de Toussons, au café La Tête des Trains, place de l'Église. C'est le vendredi 5 octobre à 20h30, c'est près de Milly-la-Forêt, Sud-Essonne, ou vers Malesherbes, Nord-Loiret. Voilà. Plus d'infos sur www.latetedestrains.com. Et en attendant, un grand salut aux AMG de la part de Pierrot, Polo, Dominique, les animateurs du repère. Ciao.
Bonjour, j'habite en Bourgogne. C'est ce que j'ai entendu dans l'émission de ce lundi Midi Rouge fait écho à ce qu'on connaît ici dans la côte chalonnaise, notamment quand le vigneron parlait des caves coopératives, de l'utilisation record des pesticides, puis des machines à vendanger. Ici, dans la Bourgogne, enfin dans le sud de la Bourgogne, pour résumer l'état d'esprit de beaucoup de vignerons ou de viticulteurs, moi j'ai fait ce constat, c'est que la tradition fait un argument qui est lourd, une marque de fabrique qui est mise en avant par les vignerons, le savoir-faire, le côté festif du vin, les vendanges, enfin tout ça. Mais c'est bien souvent qu'une belle façade, parce que ces fameuses traditions, ils s'assoient dessus pour utiliser par exemple des machines à vendanger. Alors on parle des fêtes des vendanges, mais ça existe de moins en moins hein, par ici également. À les entendre, donc tous ces gens-là, bien entendu, ils sont pas tous comme ça les vignerons, mais de plus en plus, il y en a qui marchent comme ça. Donc à les entendre, ils sont les tenants de la tradition. Mais dès qu'il s'agit de remplir son porte-monnaie pour se payer des voyages dans les îles, la tradition, elle est complètement oubliée. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce comportement typiquement libéral. J'affirme haut et fort d'un côté une chose, mais je le fais pas à cause des réalités économiques, hein, entre guillemets réalités économiques. Et ainsi ça se dégrade. Par exemple, il y en a même dans la haussée de Montagny, hein, c'est un grand vin blanc de Bourgogne, sur les étiquettes, il y a marqué vendange à la main, parce qu'ils réservent quelques endroits qui sont vendangés à la main, et c'est une plus-value, on le met sur l'étiquette, et puis ces bouteilles-là sont d'ailleurs réservées à l'exportation au Canada et aux États-Unis.
Oui, salut Daniel, c'est André Fada de la CGT des chantiers navals de Saint-Nazaire. Voilà, je t'appelle pour donner une bonne nouvelle à toute la résistance qui se bat aujourd'hui. Je suis avec Roberto Ferrario, animateur du site internet Bella Ciao. On vient de sortir du tribunal de Saint-Nazaire, le résultat devait être rendu tout à l'heure, là il a été donné. Donc le tribunal rejette pur et simplement la demande de poursuite contre Bella Ciao. Donc c'est pour nous une excellente victoire. C'est une excellente victoire pour la démocratie. C'est une excellente victoire pour tous les travailleurs qui se battent. Et c'est une excellente victoire pour la liberté d'expression syndicale et politique et sociale. Donc la résistance, elle s'organise, elle se bat, elle obtient aussi des avancées, on gagne aussi du terrain, hein, c'est pas que les tauliers et les fachos qui gagnent, hein, pour cette fois-ci c'est nous. Les chantiers se sont pris un sacré retour de flamme du coup de bazooka qu'ils ont voulu lancer contre la démocratie. Donc je vous passe Roberto de Bella Ciao, on va fêter tout ça ensemble maintenant et bonjour à tout le monde.
Bon, moi j'ai une chose importante pour moi à dire, j'ai remercié tout le monde qui m'a soutenu, les plus de 25 000 signatures, les organisations, les syndicats, les organisations politiques, les associations, j'ai remercié encore vraiment tout le monde et je pense que c'est vraiment, comme disait André, une victoire pour la liberté d'expression, pour le journalisme citoyen, pour pouvoir permettre à tout le monde d'être informé. Bon, ciao à tout le monde. Et on va se retrouver sur notre site bellaciao.org. Ciao, ciao.
Voilà, on perd pas toujours pour tout comprendre sur ce que vous venez d'entendre. Allez voir effectivement sur le site Bella Ciao cette lutte longue qui vient d'être donc remportée par l'animateur du site et pas seulement par tous ceux qui l'ont soutenu dans cette longue lutte. Ça fait un peu écho à ce qu'on va entendre aujourd'hui. On reste dans le Midi Rouge aujourd'hui et on va évoquer la révolte de 1907 d'il y a un siècle, mise en relation avec l'évolution évidemment d'aujourd'hui, 2007. Où en est ce Midi Rouge? Où en est le vin qu'on y fabrique, qu'on y produit, qu'on y concocte? Bien sûr que c'est un sujet de saison, c'est le temps des vendanges, mais c'est un sujet bien plus important que ça. Il semblerait bien que ce soit carrément un sujet de civilisation. Que voulons-nous là encore entre le world wine, le vin, une espèce de vin mondial qui ressemble un peu à la world music, fait d'un petit peu tout, qui plaît un petit peu à n'importe qui, à de papier peint sonore international, mais qui se veut universel ou universaliste sans avoir plus aucun goût, aucune âme autre que celle du profit et d'une réponse à une demande supposée par ceux qui produisent, qui fabriquent ces produits, ou bien le vin avec son histoire, son âme, son terrain, son territoire. Or nous vivons une époque de déterritorialisation, d'une époque hors sol. Alors voilà, on s'y attendait pas. Ceux qui ricanent que lorsqu'ils entendent, ils ont bien raison. On leur rappelle la fameuse phrase de Pétain, la terre ne ment pas. Ils sont bien gênés là. On est un peu coincé avec cette histoire, mais très vite, il suffit de goûter, d'ouvrir une bouteille, de savourer et de comparer. Et là, tout devient, si je puis dire, clair. On va essayer de rester clair jusqu'à 16h dans la base si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, là-bas, si j'y suis, ici le repère du pays d'Aix, en Provence. Eh bien, nous ouvrons demain notre université populaire et citoyenne du pays d'Aix, qui est un juste résultat de ce qui s'est passé au repère pendant un an, c'est-à-dire des gens qui se sont rencontrés et puis qui ont eu des idées d'initiatives populaires. Donc demain commence l'Université populaire et citoyenne du Pays d'Aix et Daniel Marmet en est le parrain. Voilà. Donc je souhaiterais que ce soit transmis par les ondes. Et on vous y accueille tous demain au Jazz de Bouffant, Théâtre de Verdure, à Aix-en-Provence, 18h30. Ouverture de l'Université populaire et citoyenne du Pays d'Aix. Merci beaucoup. Au revoir.
Hey, salut Daniel, c'est Eric, chauffeur routier à Sarrebourg. Je viens d'entendre une information de la plus haute importance, là au journal de midi sur France Inter, qu'un jeune adolescent avait été interpellé au guidon d'un Vélib qu'il avait volé à Paris. J'espère pour lui qu'il n'a pas été interpellé sur un couloir de bus emprunté par notre président de la République quand il circule à contresens dessus. Allez, bonne journée Daniel.
Salut. Un petit message pour signaler aux Morbihanais qu'on se réunit comme tous les premiers jeudis de chaque mois, donc jeudi prochain, au Billabong Café à 21h30 à Auray, dans le Morbihan, pour faire un repère là-bas si j'y suis. Venez nombreux, soyez les bienvenus. Cette fois-ci, nous allons parler de l'eau en France, de l'eau dans le monde. L'eau privée, l'eau pas privée, voilà. On a un intervenant qui vient. Bisous à tous, merci.
Salut, c'est les renseignements généreux de Grenoble, un collectif qui depuis 2003 produit des brochures avec des citations précises, datées, sourcées. Alors on a bien bossé là ces derniers temps et on vient de sortir une nouvelle brochure qui s'appelle « Connaissez-vous Nicolas Sarkozy ?» avec plein d'anecdotes, des citations, des faits précis, datés et sourcés. Enfin, des outils d'autodéfense intellectuelle, c'est utile par les temps qui courent. Alors cette brochure, elle est gratuite, elle est téléchargeable sur internet à l'adresse suivante www.les-renseignements-généreux.org. Salut à toutes et tous et bon courage, ciao.
Qui c'est qui fait taratata? C'est la trompette, c'est la trompette. Pour faire marcher les petits soldats en randonnion et bien nos pas. Qui c'est qui fait boum 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 boum? C'est la grosse caisse, c'est la grosse caisse. Elle a l'air d'un gros patapoum. Dès qu'on la voit, on entend boum.
C'est bien vrai.
Mais oui, mais qui c'est qui fait glou glou? C'est la bouteille, c'est la bouteille. Qui c'est qui fait glou glou? C'est la bouteille de chez nous.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, le midi rouge.
Flight number 2, arriving from...
Le vin en Languedoc a correspondu à une commande sociale. C'était le vin, c'était la piquette, c'était le gros rouge, pour le prolétariat industriel et pour les armées. C'était ça. Et le Languedoc, de ce point de vue-là, a parfaitement répondu à la commande sociale qui a été faite. Et puis, après les années 70, ben en fait, c'est ça la crise des années 70. C'est que cette commande sociale cesse d'exister. Et donc, il y a une nécessité d'adaptation nouvelle. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus dans cette commande sociale. Aujourd'hui, la commande sociale, c'est dû faire du vin de bonne qualité, de très grande qualité, et du vin de consommation courante, léger, plaisant, de type vin de cépage. Voilà. Eh bien, l'ordre aujourd'hui, elle répond là-dessus. À notre charge, mais il faut qu'on soit un petit peu aidé quand même, à notre charge de communiquer correctement sur les productions que nous avons.
Eh oui. Le gros rouge, le bleu qui tâche, c'est un peu fini. Les leveurs de coude sont aujourd'hui beaucoup moins rapides et le durillon de comptoir se fabrique toujours, bien évidemment, mais avec d'autres produits. On y met de la bière, on y met un peu autre chose. En tout cas, le cœur n'y est plus autant qu'autrefois. Je me souviens dans ma jeunesse, dans mon enfance, d'une publicité dans le métro, d'une réclame qui disait « Jamais plus d'un litre de vin par jour ». Au-delà d'un litre de vin, c'était beaucoup trop. C'est dire ce qu'on buvait encore à cette époque, dans les années 50, fin des années 50. Et c'est vrai qu'on a beaucoup bu dans notre pays. L'assommoir de Zola en témoigne. Mais on a beaucoup bu et on servait aussi, bien évidemment, des quarts de rouge aux gardes de rouge aux militaires. Alors, c'était dans ce Languedoc, Roussillon, que se fabriquait ce vin. Et puis, on vient de nous le dire, Patrick Roux vient de nous le dire, les temps ont changé. Les temps ont changé et aujourd'hui, l'enjeu est quand même très très important. L'air de rien, c'est pas seulement une histoire d'adaptation au monde, de modernisation et de toutes ces choses qui sont présentées toujours pour inéluctable. C'est à nouveau un affrontement entre une culture, s'il y a une culture chez nous que nous connaissons, que nous buvons chaque jour sans même y penser, c'est bien celle-là, c'est bien celle du vin, c'est bien celle de cette histoire ancienne et de tout ce qu'il y a dans une goutte de vin. Et la pression, l'impérialisme, on pourrait dire, qui veut qu'il faut produire, qu'on est obligé, qu'il y ait une concurrence mondiale et qu'il faut ces produits passe-partout, allant partout, mais qui, allant partout, perdent leur âme, leur sens et leur signification. Alors c'est ce conflit-là qu'on retrouve partout aujourd'hui dans notre pays, mais pas seulement, qui se joue ici. C'est cet enjeu qui passe aujourd'hui par ces terres où jadis Jaurès passa en 1905. Jean Jaurès, qui n'était pas encore connu de tous les Français comme il l'est aujourd'hui grâce à notre nouveau président de la République, était dans cette région et il a eu des accents très très lyriques pour évoquer l'ouverture d'une coopérative à Maraussan. Il disait « C'est par vastes étendues uniformes que procède la culture. Il n'y a ni arbustes, ni haies qui rompent ou dispersent le regard. Et quand le paysage se déplace en sens inverse de la marche rapide, les rangées de vignes s'émeuvent jusqu'à l'extrême horizon. Elles tournent comme les rayons de feuillage d'une énorme roue du chariot de Bacchus. Ainsi, je me figurais l'action du socialisme ordonnant et exaltant vers des fins supérieures toute la vie de ces régions passionnées où nous sommes ensemble, amis auditeurs, jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Sente calciere de bombie e plus tombe de guidone se galomère.
Bois, 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 des bombes sans trop t'enfermer.
Bois, 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 rouge, rose, vert ou blanc. Bois, bois, bois.
Des bombes sans trop t'enfermer, je connais des centenaires qui en ont vu pendant 100 ans.
Ber, 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 des bombies et plus tombe l'ami. Ber, 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 de la vigne loup-bombère. Ber, 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 per commencer sente calciere de bombie et plus tombe de guidone se galomère.
Ber, 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 des bombies et plus tombe l'ami. Ber, 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 de la vigne loup-bombère. Ber, ber, ber.
Maraussan, coopérative. Les vignerons du pays dans ses runes. Coopérative de Maraussan. Qu'est-ce qu'on appelait le midi rouge alors à l'époque?
Alors là, je ne pourrais pas vous répondre de manière plus précise.
Monsieur, peut-être, avec sa chemise rouge.
Non, mais le midi rouge, c'est le midi viticole, c'est-à-dire le midi producteur de raisins, de rouge, qui était ici la production principale. Quoi.
Ah, le midi rouge, c'est affaire au vin rouge et pas à la couleur rouge politique.
Moi, je ne pense pas, puisqu'on l'a appelé le midi rouge parce qu'ils étaient plus producteurs de vin, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est plus rattaché à la couleur politique, je ne pense pas du tout. Quoi. Voilà.
Ça signifie quoi pour vous alors le midi rouge?
Mais le midi rouge, le midi rouge, il faut dire que quand même, depuis 1907, on peut dire que quand même la région a toujours été radicale, et puis radicale socialiste et toujours à gauche. Bon, maintenant les choses ont un peu évolué, mais c'est pour ça qu'on a gardé cette estampille, le midi rouge, qui, on va dire, de rose.
Révolutionnaire, un esprit révolutionnaire, oui. Et pas, comme certains pourraient l'imaginer, oui. De gros rouges.
Voilà. Étonnement. J'étais à Maraussan pas plus tard qu'hier, et puis un des directeurs de la coopérative me disait midi rouge, non, ça doit être la couleur du vin.
Ah non, pas du tout.
Hein, là, il y a quand même une perte de patrimoine.
De patrimoine, quelque
c'est
part.
Triste, hein.
C'est triste. De, quand vous ai répondu ça, dans la plus vieille cave coopérative de France.
Inaugurée par Jean Jaurès.
Inaugurée par Jean Jaurès, c'est un peu. Enfin, fort de café quand vous ai répondu ça.
C'est sûr, attention. Tu vois que celle-là, on l'entendrait. Hein,
Thank you.
Eh oui. Hiatus entre le directeur de la coopérative de Maraussan et ses coopérateurs de Camplong, une autre coopérative. Eh oui, Maraussan, c'est la fameuse coopérative inaugurée par Jaurès, qui commençait son discours avec le lyrisme que je vous ai fait partager. Mais c'était pour une chose très très importante en ce début du XXe siècle, après c'est des décennies de lutte sociale et de construction de ce qui allait devenir le mutuel, enfin ce qui devenait, qui était en train de devenir le mutualisme, l'esprit coopératif et le mot de communisme était lié à ça. Vous voyez un petit peu comme ce qu'est devenu ce mot un siècle après. Mais c'était bien dans le même souffle, c'était bien dans le même esprit de relier les hommes, leurs efforts, de produire ensemble. Et ce 1er mai 1905, Jaurès disait, c'est un précieux exemplaire des combinaisons variées par où le travail paysan, naturellement plus parcellaire, plus fragmenté que le travail industriel, pourra se relier au vaste communisme ouvrier. Ce sont ces grandes et fortes pensées qui mettent une fierté, une joie au regard des bons vignerons maraussanais, recevant leurs amis socialistes et parlant avec eux de l'avenir. Jamais la journée du 1er mai ne me fut plus douce, plus rayonnante d'espérance qu'en cette commune paysanne de Maraussan. Voilà, les temps ont bien changé. Mais évidemment que pour tous, si ces terres sont des terres de vin, ce sont aussi évidemment des terres rouges, d'une tradition rouge, socialiste, communiste, on pourrait dire dissidente, presque d'elle-même. Et donc nous voilà à Camplong avec Odette. Et pour découvrir cette avec Odile par exemple, avec Odile Donat, pour découvrir cette cave, parce que si hier on était avec un vigneron qui lui avait sa propre exploitation, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir sa propre exploitation. C'est évidemment des investissements, éventuellement un patrimoine familial qui permet de travailler dans des conditions comme ça. Ceux qui n'ont pas ces moyens, et ils étaient évidemment concernés à l'époque déjà, on voit à travers ce que Jaurès venait célébrer ce jour-là, ceux qui n'ont pas les moyens, il faut bien se regrouper. Or, ces regroupements ont dérivé vers des produits de qualité qui ne correspondent plus du tout au marché, aux exigences. Aussi, essaye-t-on ici de résister, conscient que l'on est de ce choix, bien évidemment, d'abord là, il y a la survie, à vivre, il y a aussi répondre aux attentes du public, du consommateur, du buveur en l'occurrence, mais aussi il y a un esprit, il y a une culture et une volonté qu'on pourrait tout à fait, ayant toujours l'ombre tutélaire de Jaurès non loin de nous, qualifier de politique.
Ici, nous sommes à la cave coopérative de Camplong, les vignerons de Camplong. C'est une des plus petites caves coopératives de l'appellation Corbière. Nous avons 30 adhérents, tous très jeunes. Le plus âgé a 50 ans. Mais donc nous subissons nous aussi la crise, bien évidemment, un peu moins que les autres, parce que depuis de longues années, on a fait un gros travail au niveau de l'encépagement de notre vignoble, du travail au niveau qualitatif, équipement de notre petite cave.
Donc ça veut dire que vous incitez les coopérateurs
à faire de la qualité, toujours de la qualité, encore de la qualité. Et donc, on a un cahier des charges qui est très, très dur pour eux, notamment pour les vendanges. Chez nous, les vendanges s'étalent pendant un mois, à peu près.
Et vous incitez à la vendange manuelle, par exemple?
Alors, voilà, là aussi, bon point. Nous sommes aussi une des rares caves dans les Corbières à vendanger 80% de notre production à la main.
Alors, comment vous expliquez la crise qui traverse beaucoup d'autres coopératives, malheureusement?
Le problème, si vous voulez, c'est que peut-être certaines de nos caves ne se sont pas adaptées à la commercialisation directe, ou s'y sont mis très tard. Et donc, malheureusement, elles sont tributaires des prix du négoce, des prix mondiaux maintenant, parce que malheureusement, le vin, c'est une denrée comme une autre au niveau mondial.
Qu'est-ce que vous appelez les prix du négoce ?
Les négoces, c'est-à-dire le négociant qui fixe les prix avec les grands distributeurs. Donc, fatalement, nous, on est un peu... à part de ce circuit, parce que nous commercialisons directement nos vins. Voilà. Là, si vous voulez, maintenant, il faut savoir que pour le commerce du vin, il y a la grande pyramide, il y a les grands groupes. Donc, tout est recentré. Et donc, ce qui a un peu tué notre région, si vous voulez, à ce niveau-là, c'est que nous n'avions pas, comme dans d'autres régions de France, des négociants éleveurs qui... Il en a manqué. Et donc, si vous voulez, sur la place en Languedoc-Roussillon, il y a très peu de négociants éleveurs. Et donc, fatalement, c'est un peu plus difficile d'avoir une offre un peu plus étalée. Voilà. Mm-hmm. Excusez-moi, mais il y a le président qui est arrivé.
Il est sur son tracteur, donc il est...
Il est sur son tracteur, là, qui vient d'amener. Et comme nous avons une petite panne à l'égrappage, et à la machine qui égrappe les grenaches, il est allé voir ce qui se passe. Alors, attendez. Bonjour.
Monsieur le Président.
Voilà.
Alors, c'est quoi les vendanges de la colère? Là, on a un livre donc, qui a été écrit par Alain Rénal et avec Christophe
de Roubaix et Gérard Le Puil, qui retrace les vendanges de la colère, c'est-à-dire les vendanges de 1907, et là aussi qui fait le lien entre les événements qui ont soulevé le midi viticole en 1907 et la crise actuelle que malheureusement surtout le midi viticole subit, ainsi que les autres appellations, mais surtout et toujours nous sommes le dernier carré à avoir les tous les problèmes qui nous tombent sur la tête, c'est le midi viticole.
Mais alors, pourquoi toujours le midi ? Pourquoi toujours le Languedoc qui trinque ?
Alors, ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est que depuis maintenant 20 ans, nous avons fait des progrès énormes dans toutes les appellations du midi, de réencépagement, de vinification de qualité. Mais malgré ça, si vous voulez, on pâtit d'une mauvaise image de marque. On a pourtant des grands vins qui sont maintenant connus et reconnus dans le monde entier. Mais malheureusement, on a là 80% de la production qui a du mal à être commercialisée à un prix décent. Il faudrait que le cours des vins soit une valeur qui puisse permettre à nos vignerons de travailler correctement leurs vignes, investir et encépager. Malheureusement, il y a beaucoup de nos vignerons actuellement qui sont obligés de demander le RMA, le RMI agricole. Ça n'est plus possible de continuer comme ça. Donc peut-être que pour sortir de la crise, il ne faudra plus faire le style de vin industriel qu'on est habitué à faire dans le midi pour la grande masse de nos vins, mais peut-être, bien évidemment, restructurer notre vignoble et faire des vins de plus grande qualité.
Monsieur le Président,
voilà.
Aujourd'hui, malheureusement, on peut se faire plaisir en faisant des vins de niche dans certaines entreprises, mais au niveau de la consommation mondiale, il faut adapter la production à ce que demandent les gens. Même si ça nous dépasse, même si nous ne sommes pas d'accord, nous sommes obligés de vivre de notre métier. Et nous sommes obligés donc d'adapter nos structures, nos installations à la demande du consommateur. Alors pour quelques caves comme la nôtre, où depuis plus de 30 ans nous travaillons sur la qualité et la vente directe, nous réussissons à nous en sortir et à vendre correctement notre production. Mais il est vrai que pour la majorité des entreprises de ce département, de cette appellation Corbière, l'avenir est plus que sombre.
Mais ça veut dire quoi, s'adapter à la demande du consommateur?
Ben écoutez, c'est souvent les metteurs en marché qui facilitent certains produits par rapport à d'autres. C'est clair qu'on peut dire dans des rayonnages, on voit plus de corbières, mais évidemment on voit plus de corbières. Si les gens l'achètent plus, ils le mettent plus en rayonnage, il y aura plus de corbières et on dirigera le consommateur vers d'autres produits. Le producteur, il est complètement dépassé. Hein.
De nos bibles hein, qui s'appelle Secret de Vin.
Une cuvée quoi.
Oui, qui est vendue, c'est du Corbière, qui est vendu en petit cubi, en fontaine à vin. Et on l'a appelé Secret de Vin. Mais les secrets, c'est quoi? C'est notre attachement au terroir, nos bons raisins et la volonté de vivre encore dans notre pays et de notre travail. Voilà, c'est tout. Le secret de vin, c'est ça. Et du vin naturel, bien évidemment, qu'on continuera à faire, et encore, et encore.
En même temps, donc, qu'un vin mondialisé, ah un world
non,
wine
non,
pour
non, non, non,
ah
non.
Vous, dans le world wine, vous ne le faites pas.
Et on n'en fera jamais. Donc, quitte à un jour, dans notre vignoble,
donc, limiter la
on
la
va
quantité,
peut-être arracher quelques vignes, ne garder que les meilleures. Mais peut-être on produira 20% de moins, 30% de moins, mais ce que nous allons produire, ce sera des vins de qualité, des vins artisanaux, des vins qui représentent notre terroir et notre travail et le goût du vin des Corbières, que là, franchement, on améliore avec moins de tanins, plus goulayant, plus facile à boire, plus lisible, mais avec une âme. Et ça, quoi qu'il en soit, ben, on essaiera de préserver ça.
Il est des gens au pays de France qui disent avec un air d'importance que tout ici devient prolaté, qu'il n'est plus en train ni de guetter. Comme j'ai pitié de ces neurasthéniques, je vais leur offrir le moyen pratique afin de guérir leur estomac et leur foie qui sûrement ne vont pas. Ils n'ont qu'à boire illico, une vieille bouteille de derrière les fagots. Le vin, on aura beau dire pour faire, c'est bien ce qu'il y a de mieux sur terre. Il fait illuminer les fronts moroses et fait voir aux buveurs la vie en rose. Le vin, c'est le fils du soleil et de la vigne, et rien n'a des origines plus dignes. Buvons du vin de n'importe où, mais buvons surtout du vin. Du vin de chez nous.
Écoutez ça. Télégramme adressé à Monsieur Georges Clémenceau. Midi semeur. Au nom de tous, ouvriers, commerçants, viticulteurs, maris sans espoir, mères prêtes au déshonneur, enfants sans pitié, preuve, fraude est faite. La loi du 28 janvier la favorise, abroger cette loi. Voilà l'honnêteté. Signé Marcelin Albert.
Marcelin Albert?
Tu le connais?
Oui, je le connais. Vous aussi. Il est de chez moi, d'Argeliès. Il est venu jouer à Ruy-Blas il y a 30 ans.
Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que pendant que nous, on est là à prendre l'apéritif, il y a Argeliès, un vigneron. Il est bien vigneron, Marcelin Albert.
Oui, il est vigneron. Il a un café aussi.
Il y a un vigneron qui a le courage d'écrire ça au président du conseil et de signer.
Tu as raison, Louis. Un courage pareil, ça mérite un coup de chapeau. Tiens, moi, si j'étais jeune, eh ben, j'irais jusqu'à Argeliès pour lui serrer la main à Marcelin Albert.
Ils ont été nombreux à lui serrer la main à Argeliès et ailleurs en cette année 1907, les vendanges de la colère, cette révolte énorme de toute la région est encore dans les mémoires grâce à la fameuse chanson de Montéus, Gloire au 17e. On se souvient comment l'armée qui avait été envoyée contre le peuple par Clémenceau refusa de tirer et comment les militaires, les soldats, les braves piou-piou du 17e se mutinèrent, non sans avoir auparavant cependant tiré quand même dans la foule et avoir fait plusieurs morts. Ça a été une révolte qui n'était pas seulement une révolte ouvrière, ni même seulement une révolte des vignerons, c'était une révolte de tous. qui avait été frappé après que le phylloxéra ait détruit les vignes. Il y avait eu une surproduction de vin et les cours s'en trouvaient effondrés. Et tant de gens vivaient de cette activité que tous étaient concernés par ces difficultés à vivre. La révolte a été très violente, des manifestations nombreuses par centaines de milliers. Ils ont tous manifesté. Après avoir donné ce spectacle sans précédent dans l'histoire d'une manifestation économique aussi colossale, il nous reste à montrer de quelle force et de quelle maîtrise est capable ce peuple méridional que l'on se plaît parfois à présenter comme un ramassis de turbulents, d'exaltés et de fous. Et à Narbonne, assiégés, 6 de ces manifestants tomberont sous les balles des soldats. Avec Antoine Chao, c'est à Argeliès, Jean Ramade, qui est un érudit local, qui connaît bien la question, qui évoque cette révolte.
Alors ici on est à Argeliès et c'est un des hauts lieux de la révolte, de ce qu'on a appelé les vendanges de la colère.
Tout à fait. C'est après... ici que les premières manifestations ont eu lieu. Et voilà donc la place des vendangeurs à droite.
Et ici on est au café.
Voilà le café Marcelin Galbert.
Alors ici en 1907 fut constitué le comité de défense viticole d'Argeliès, dont Marcelin Albert fut le promoteur. Alors, qui c'est ce Marcelin Albert ?
Eh bien, Marcelin Albert, donc, était un Argeliésois et qui était né ici, qui avait quelques vignes, mais et ce café. C'était un homme de théâtre, il était acteur, il a même joué Ruy Blas. Hein, et voilà, il avait un ascendant assez important dans son café. Donc, dans son café, les discussions sur la crise et les réactions à la crise ont eu lieu. Et petit à petit, c'est devenu le siège donc du comité de défense viticole où se réunissaient donc tous les acteurs du mouvement qui allaient prendre une ampleur incroyable, puisqu'il a réuni d'abord 87 vignerons d'Argeliès, et puis ils sont devenus, je crois, 600 000 à Montpellier, mais dont est sorti aussi, ou a été pensée, sortie toute la réglementation viticole, qui en a fait un des produits les plus réglementés de l'agriculture.
Parce que les slogans quand même là, des révoltés, c'était du vin naturel et oui. Halte à la fraude, c'est ça?
Absolument. La crise de phylloxérique est tombée à un moment donné de grandes demandes pour la France de vin et ça a engendré la baisse de production et ça a engendré des fraudes, hein, qui ont ensuite, quand la production est redevenue normale, qui a fait fondre les cours.
Voilà. Alors là, il y a une plaque qui a été posée, c'est ça, les 10 et 11 mars 2007, commémoration du centenaire de la première manifestation viticole. Alors il y a aussi
à gauche, hein.
Les glorieux mutins du 17e.
Ah là, oui, là ça a été un moment fort et tragique aussi, puisque les mutins ont tourné le fusil contre les officiers et se sont déclarés. Ce sont des carrés solidaires, comme les régiments étaient territoriaux, ils ont été solidaires de leur famille, en quelque sorte, qui étaient dans les manifestants.
Légitime était votre colère, le refus était un grand devoir. On ne doit pas tuer ses pères et mères pour les grands qui sont au pouvoir. Soldats, votre conscience est nette, on ne se tue pas entre Français. Refusant de rougir vos baïonnettes, petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, braves piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique, vous auriez, en tirant sur nous,
assassiné la République.
Non mais que tu vas dans le port là.
les voix de Monteus et de Marc Augeret qui se mêlent dans ce chant sublime, gloire au 17e. On est toujours dans le Midi Rouge. Et là, sur, parce que c'est un peu la même histoire aujourd'hui. Le frelaté, le grand mot à l'époque, c'était frelaté. Aujourd'hui, les projets de World Wine, enfin, c'est pas seulement des projets, c'est en route. C'est un peu la même histoire. Entre un vin de qualité, fait artisanalement, issu du terroir, dont on connaît l'histoire, dont on connaît les vignerons, etc. Et puis un vin industriel qu'on peut mélanger, qui devient à peu près complètement non pas complètement chimique, mais complètement trafiqué. Alors comment on résiste quand on est en coopérative? On a fait l'éloge des coopératives, ou du moins on a essayé d'évoquer leur histoire, leur origine. Voilà Jeanne Péris qui est vigneronne.
Alors Jeannine, vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est ici?
Corbière.
Corbière?
On est dans les Corbières, oui. Il n'y a qu'à voir. Hein. Paysage fantastique, merveilleux. Voilà, mm-hmm. Ça fait 25 ans voilà, que je suis viticultrice à Tézan. Mm-hmm. Et cette année, nous avons perdu une partie des viticulteurs, la cave de Tézan. Voilà, une fusion qui a fait que la moitié sont partis dans une autre cave, à côté, à 3 km. Et d'autres sont partis à Puchéric, dans les vins de pays. Le Corbière est parti dans les mêmes pays. Pour moi, c'est une catastrophe. Voilà. On a perdu notre cave. Voilà. Bon, une partie déjà.
Alors, c'était une cave coopérative qui était à Tézan?
Oui, voilà, qui a été créée en 1919. Donc, une vieille cave. Voilà, vous imaginez l'investissement des gens et des générations passées. Et donc, voilà, pour nous, il ne reste plus rien. C'est perdu. Voilà, il se passe des choses étranges dans les Corbières. Voilà. Bon, il faut se mettre en place là.
Ouais,
parce qu'en même temps, bon, on va travailler. Hein. Même avec les manquants, Jean Loula et voilà. Et Myriam.
Non, on va prendre
là-bas ou là-bas? Ah non, au milieu, je vais. Au milieu. Toi, tu décides. Décide le milieu où il est pour vous, les porteurs. Normalement, le manquant a un 2.
Alors, Jeannine, là, on entend le
bruit de la grande machine.
Alors, rien à voir avec le doux bruit des sécateurs hein, qui coupent les drapes une à une.
Tout ce qu'on peut dire, c'est une autre façon de vendanger et de ramasser les raisins. C'est des choix personnels. La machine, sur certains cépages, peut-être oui, lorsqu'ils sont sur fil de fer, etc., est bien alignée. Et sur d'autres, non. Et même, suivant les vins que l'on voudra élaborer, je pense que la machine ou la main ne feront pas non plus les mêmes vins.
Ça. Mais aujourd'hui, qui veut boire du mauvais vin, en fait?
Personne.
C'est ça.
Personne. Non, parce que si on considère le vin, c'est un produit. C'est plus les ouvriers qui boivent. Où ils sont, les ouvriers? Chez Renault, qui c'est qui reste comme ouvrier? Où est Renault? Où ils sont délocalisés tous. Donc, la consommation du vin, de ce qu'elle a pu être de la guerre de 14, etc., ou des grandes usines qu'il pouvait y avoir en France, ça n'existe plus. Que ce soit du textile, ou de l'automobile, ou de la sidérurgie, etc., elles n'existent plus. Donc, l'orientation, c'est de fabriquer notre vin accessible, mais bon, voilà, un vin qui soit un vin.
Il y a des organisations, ils poussent pour... qu'on rajoute du caramel, du sucre, de ceci, cela, quoi, pour aller vers un produit soi-disant aimé par le consommateur, mais ce qui n'est pas évident du tout, parce qu'on ne lui a pas posé la question au consommateur. Est-ce que c'est vrai? Ça, on ne le sait pas, ça. Nous, on pense que non, parce que le vin, c'est un produit qui doit être naturel, bien fait, et les gens doivent l'apprécier, quoi, tel qu'il est. Nous, on n'a pas envie de trouver du goût de caramel dans le vin rouge. Dans les grandes wineries qui veulent faire un peu partout, tout ça.
Les wineries, c'est pour faire du world wine, hein, c'est ça?
Voilà, oui. Ils veulent changer toutes les normes, toutes les protections qu'il y avait sur les législations sur le vin, ce qui avait été fait après 1907, justement. Et ils veulent supprimer toute cette réglementation. Et si on supprime ça, on reviendra au même problème qu'il y avait avant 1907. Techniquement, maintenant, on est capable de faire du vin avec n'importe quoi.
Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est que les coopératives qui ont été créées au début du siècle, justement pour lutter contre ça, aujourd'hui sont un petit peu les maîtres d'œuvre du trafic du vin, voilà. Quoi.
Pas toutes.
pas toutes. Il y a des gens qui veulent résister dans leur coin et continuer à faire du bon vin comme nous. Voilà, et essayer de sortir un revenu pour le vigneron en respectant le consommateur. On pourrait, derrière chaque bouteille, mettre la photo de chaque viticulteur pour montrer que ben, c'est lui qui l'a fait. Voilà, c'est pas des immenses cuves faites je sais pas où, n'importe où, où il n'y a plus d'appellation, il n'y a, a plus de protection de rien. Je pense pas que ce soit l'avenir du vin. Quoi. C'est pas possible. Quoi. Ils le mettent dans des camions, ça s'en va ailleurs, tout et tout. Et puis, à 850 hectares l'hectare, on ne peut pas faire du bon vin.
Ah, ça, le vin, c'est mon verre de vin. Moi. Je ne bois pas de Ricard. Moi. Je boycotte le Ricard.
Du vin ?
Ah, je bois que du vin.
Ah, il y avait du manger.
Ah non.
Élu de viticole, c'est une vieille coutume hein, dans notre beau pays. Il n'y a pas le Languedoc-Roussillon, n'a pas le monopole de ces conflits. On parle beaucoup de 1907, mais il y a eu aussi 1976. Le 4 mars 1976, dans ce coin où nous sommes, il y a eu une fusillade brève, mais terrible, entre les forces de l'ordre et viticulteurs à Montredon, dans les Corbières. Et au terme de ces 20 minutes d'affrontement, on a relevé deux corps, deux morts, un commandant de CRS et un viticulteur de l'Aude. Les raisons étaient proches de celles de 1907 et proches des raisons d'aujourd'hui, des histoires de réglementation ou de déréglementation plutôt, et qui évidemment tout ce qui risque de mettre en jeu et en péril la vie et la survie des vignerons et de cette activité. Rencontre avec Patrick Roux à Montredon.
C'est la nationale, et en fait on est au bord de la voie de chemin de fer et de la nationale 113. Donc le 4 mars, effectivement, le 4 mars 1976, rassemblement ici à Montredon, à l'appel de tous les dirigeants viticoles. La veille, appel fait à Narbonne depuis le balcon de la Confédération Générale des Vignerons du Midi, appel à mobilisation pour la libération des viticulteurs arrêtés. Et cette mobilisation se déroule dans un climat de tension absolument phénoménal. Lorsque les vignerons arrivent, et notamment Émile Pouitès, au pied de la stèle où nous sommes, ils ne viennent pas pour ne pas repartir. Et à peine sont-ils descendus de voiture, les balles sifflent aux oreilles, et Émile Pouitès, qui avait fait promettre aux gens qui étaient venus le chercher de le ramener pour être chez lui à midi, eh bien ne reviendra jamais. Il est tombé donc le 4 mars 1976 à l'âge de 60 ans. Et tous les ans, lorsque nous commémorons l'assassinat d'Émile Pouitès, nous commémorons également le malheureux assassinat du commandant Le Goff, qui a payé de sa vie probablement une provocation gouvernementale.
On sait qui est tombé le premier ?
C'est Émile Pouitès qui est tombé le premier. Et ça va être effectivement à ce moment-là, le Montredon constitue véritablement un tournant dans la gestion de la crise de la viticulture du Languedoc à cette époque-là. Et un tournant qui va déboucher sur la nécessité de l'adaptation économique. Donc il y aura l'adaptation économique derrière. Les responsables vignerons d'alors vont se retrouver dans les années qui suivent tous en responsabilité sur la plupart des institutions de la viticulture ou de l'agriculture départementale. Et c'est eux qui vont assurer effectivement la gestion de l'arrachage déjà, du rencépagement qualitatif et donc d'une politique qui semblait à l'époque, donc sur les années 80, l'entrée massive en AOC de nos productions ici, qui semblait pouvoir porter ses fruits. Et puis l'histoire a tranché, ça n'a pas porté ses fruits. C'est précisément les vignerons qui ont fait le plus gros effort sur le plan qualitatif, qui aujourd'hui sont les plus en difficulté de ce point de vue-là. Et donc c'est une sanction qui est vraiment difficile pour les vignerons au doigt. Voilà. En 1976, il y a effectivement des phénomènes de surproduction. Mais surtout, surtout, il y a de vrais problèmes de fraude. Et ça, on le retrouve comme en 1907. La famille du président de la République, d'alors Valéry Giscard d'Estaing, est elle-même de très près mêlée à l'industrie, j'allais dire à l'industrie du vin, je rectifie, à l'industrie du pinard. Il y aura d'ailleurs des actions des vignerons au doigt contre ces structures-là, hein, qui font du vin avec n'importe quoi, avec n'importe quel produit chimique et un peu d'eau rajoutée. Donc on est vraiment sur cette dimension-là. Et les vignerons ont, qui plus est, comme en 1907, le sentiment de ne pas être entendu par Paris. Ce qui va expliquer d'ailleurs la centralité de la revendication occitane dans les luttes vigneronnes, et le fait qu'un chanteur occitan comme Claude Marty devienne véritablement la figure emblématique des luttes viticoles des années 70 ici, quoi. Comme en 1907, où le maire de Narbonne, Ernest Ferroul, appelle à résister contre Clémenceau et appelle à la grève de l'impôt et appelle à structurer ça autour de ce qu'il a appelé la Ligue du Midi, qui regroupait un certain nombre de départements, qui avait même imaginé la possibilité d'une sécession d'avec l'État, d'avec Paris, quoi. Bon. Et on retrouve effectivement ce sentiment diffus dans les luttes de 1976. Alors, ce sont davantage effectivement de ce point de vue-là, des crises conjoncturelles, hein, fraude, surproduction, mévente, voilà. Aujourd'hui, par contre, en 2007, on n'est plus du tout sur une crise conjoncturelle. On est véritablement rentré maintenant dans des crises structurelles qui mettent en péril l'organisation même de la structure de production, de l'exploitation familiale, et avec des projets qui pointent, qui sont de ce point de vue-là extrêmement dangereux. Un candidat aux législatives à Narbonne sur la deuxième circonscription de l'Aude, pour ne pas le nommer, Michel Py, candidat de l'UMP, proposé dans le cadre d'un grand plan de modernisation de la viticulture, l'installation d'une winery dans le Narbonnais. Alors une winery, c'est quoi ? Une winery, c'est un endroit où on peut importer du mou concentré et en rajoutant de l'eau, faire du vin. C'est-à-dire que nous aurions eu effectivement, en termes de modernisation, la possibilité d'un immense centre de production fait sans vignes et sans raisins d'ici. Voilà. Donc on est vraiment là sur une logique qui met en péril gravement la situation de notre région. Et on est tous concernés de ce point de vue-là, pas seulement les vignerons. Hein. 3 hectares de vignes, c'est un emploi. C'est un emploi. L'essentiel encore de l'économie narbonnaise est structuré autour de la viticulture, qu'on le veuille ou non. Et les plans de liquidation à travers l'arrachage mis en avant par l'Union européenne de ce point de vue-là sont très très dangereux. Si nous pointons l'idée qu'il pourrait s'arracher ici 50 000 hectares de vignes, on voit ce que ça veut dire effectivement en termes d'emploi. Pour comparer, c'est l'équivalent du plan sidérurgie en Lorraine dans les années 70-80.
Merci à tous, merci à Janine Péris, Françoise et Pascal Frisson, Patrick Roux, Jean Ramad et Odile Tena. C'était un reportage d'Antoine Chao à lire d'Alain Rénal et Gérard Lepuis, Les Vendanges de la Colère, Le Midi Rouge 1907-2007 aux éditions Au Diable Vauvert, et de Raoul Marc Génard, Menace sur la civilisation du vin aux éditions Aden. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures. Vous pouvez également réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. C'est Yann Chouquet et Coyen Nguyen qui ont réalisé cette émission. Et Charlotte Perry attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.